Laudetur Jesus Christus.
Israël frappe l'Iran. Plusieurs sites nucléaires et militaires ont été visés à Téhéran et à Natanz cette nuit. Le chef d'état-major des armées ainsi que le chef des gardiens de la révolution ont été tués. Les États-Unis au courant mais pas impliqués. On fera le point juste après les titres. L'Allemagne a tranché. Pas question de fournir des missiles longue portée à l'Ukraine, ce qui n'empêche pas Berlin de confirmer de nouvelles aides militaires à Kiev. Visite en RDC de la chef de mission de l'ONU à Goma. Un déplacement pour écouter principalement les doléances de la population civile 5 mois après la prise de la ville par les rebelles du M23. Et puis on reste en RDC pour notre dossier où un martyr de l'honnêteté, de l'intégrité et morale, le Congolais Floribert Mbwanachui, sera béatifié dimanche à Rome. Nous reviendrons sur ce jeune qui perdit la vie pour défendre celle des autres avec une de ses amies proches.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Le feu couvait depuis plusieurs heures. L'escalade est désormais maximale au Moyen-Orient. À 2h15, heure de Rome, cette nuit, l'armée israélienne a déclenché l'opération Nation de Lion contre l'Iran. Tzal a frappé la capitale, Téhéran, ainsi que plusieurs cibles liées au programme nucléaire iranien dans tout le pays, tuant le puissant chef, notamment à des gardiens de la révolution, Delphine Allaire.
Oui, des quartiers résidentiels de Téhéran, celui donc des gardiens de la révolution, ainsi que l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz dans le centre de l'Iran, des faits confirmés par Benjamin Netanyahou aux alentours de 3h du matin. Il annonce donc cette élimination du commandant des gardiens de la révolution Hossein Salami, dont l'organisation promet déjà vengeance. 6 experts nucléaires iraniens ont aussi été tués. Cette campagne militaire contre l'Iran pourrait continuer plusieurs jours, selon Israël, pressentant la réplique iranienne d'une centaine de drones. Déjà, l'État hébreu sous état d'urgence s'est barricadé, fermant son espace aérien. Pour Tel Aviv, la République islamique s'approchait du point de non-retour vers la bombe atomique, autant de raisons pour enclencher la surenchère. Dans un communiqué, le gouvernement iranien vient d'affirmer que ces frappes israéliennes justifient bien sa volonté d'enrichir de l'uranium, sa technologie nucléaire et ses capacités balistiques.
Le programme nucléaire iranien est donc au cœur des tensions avec un acteur clé qui s'essayait pourtant à la voie diplomatique, les États-Unis, Delphine.
Oui, le 6e cycle de pourparlers sur le nucléaire était prévu dimanche avec les États-Unis dans le sultanat d'Oman. Washington espère les maintenir malgré l'attaque israélienne dans laquelle les États-Unis ne sont pas impliqués. Selon le secrétaire d'État Marco Rubio, l'Iran n'en croit pas un mot. Les États-Unis embarrassés mettent en garde aucune représaille contre les forces américaines dans la région. Dans une interview à Fox News cette nuit, Donald Trump confie lui avoir été mis au courant à l'avance des frappes. Il souhaite toujours des négociations mais répète que l'Iran ne pourrait avoir la bombe nucléaire. Il réunit son conseil de sécurité nationale dans quelques heures.
Delphine Allaire. Et parmi les autres réactions, celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exhorte les Israéliens et les Iraniens à faire preuve de la plus grande retenue, condamnant toute escalade militaire dans la région. Un même discours de la part du Premier ministre britannique qui appelle au retour à la diplomatie. L'Arabie Saoudite qualifie les frappes aériennes israéliennes d'agression et de violation flagrante du droit international. Conséquence de cette attaque, la Jordanie, qui se trouve sur la route menant à l'Iran, a fermé son espace aérien et suspendu le trafic aérien par mesure de précaution. Autre front pour Israël, Gaza, où le Hamas considère que l'attaque contre l'Iran pourrait déstabiliser la région. Mais c'est à l'ONU, à quelques jours d'une conférence internationale à New York sur la solution à 2 États, que le gouvernement israélien a subi une défaite toute symbolique, puisque l'Assemblée générale a adopté hier une résolution non contraignante, appelant à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, à libérer tous les otages et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire pression sur Israël. Le texte exige aussi que les Israéliens mettent fin au blocus et permettent la distribution de l'aide humanitaire. La résolution condamne enfin toute utilisation de la famine contre des civils et le refus illicite de l'accès humanitaire. Les Syriens rentrent chez eux, c'est ce que révèle le dernier rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés rendu public hier. Ils sont près de 2 millions à avoir retrouvé leur foyer depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier, qu'ils soient rentrés de l'étranger ou qu'ils aient quitté leur refuge à l'intérieur du pays, ce qui ne veut pas dire pour autant que la situation générale du pays soit bien meilleure. C'est ce que nous explique William Spindler, le porte-parole du HCR.
depuis décembre de l'année dernière, il y avait presque 2 millions de Syriens qui sont rentrés chez eux, soit plus de 500 000 qui sont rentrés des pays voisins et 1 400 000 ont été déplacés à l'intérieur de la Syrie, qui sont rentrés dans leur foyer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à signaler. Mais la situation en Syrie reste toujours compliquée. Il faut soutenir ces pays pour qu'il y ait une stabilisation, une reconstruction du pays et pour que cette personne qui rentre peut rester. Et sur ça, il faut avoir du travail, d'abri, la nourriture. Les enfants doivent avoir l'opportunité d'aller à l'école, etc. Il faut rappeler que la Syrie reste un pays dévasté par la guerre.
Des propos recueillis par Paul Boyer. Au niveau mondial, quelques 122 millions de personnes sont actuellement déplacées à cause de la guerre ou de violences, un nombre en hausse par rapport à 2023. Toujours concernant le HCR, le Nicaragua de Daniel Ortega a annoncé hier s'en retirer. Il lui reproche des publications, selon lui, biaisées et partiales sur les migrants nicaraguayens cherchant refuge hors de leur pays. Clarification de l'Allemagne concernant son aide militaire à l'Ukraine. Lors de sa visite hier à Kiev, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, et à l'issue de sa rencontre avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a refusé clairement l'envoi de missiles longue portée Taurus. Le nouveau chancelier Friedrich Merz en avait pourtant fait la promesse lorsqu'il était encore chef de l'opposition. Une déception pour Kiev, mais une clarté pour l'Allemagne. À Berlin, Delphine Nerbollier.
C'est la fin d'un secret de Polichinelle. L'Allemagne ne livrera pas ses fameux missiles longue portée Taurus à l'Ukraine. Boris Pistorius a clairement dit non hier jeudi lorsque la question lui a été posée par la presse. Avec ce refus sans équivoque, se termine l'un des débats les plus houleux des dernières années en Allemagne. L'ancien chancelier Olaf Scholz s'était en effet opposé à cet envoi. Il jugeait trop grand le risque que le conflit s'étende. Ces missiles de longue portée peuvent en effet toucher des zones sur le sol russe. À l'époque, le chef de l'opposition, Friedrich Merz, avait régulièrement critiqué cette position. Mais depuis qu'il a pris la tête de l'Allemagne, en mai, Friedrich Merz a modéré ses positions et c'est son ministre de la Défense, donc, qui a enfin mis fin au suspense. La déception est grande en Ukraine où le président Zelensky plaide depuis des années pour l'envoi de Taurus, des armes selon lui qui pourraient changer la donne sur le terrain. Mais en Allemagne, 2/3 des habitants y sont opposés. L'Allemagne poursuit toutefois son aide à l'Ukraine. Elle a annoncé une nouvelle enveloppe d'1,9 milliard d'euros, soit 9 milliards au total pour l'année 2025, le plus haut niveau en Europe. L'Allemagne veut aussi aider l'Ukraine à produire des armes de longue portée sur son territoire. C'est une nouveauté. Berlin, Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
Au lendemain du crash d'un avion de ligne à Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde, les sauveteurs poursuivent leur recherche de victimes. Ils fouillent aussi bien ce qui reste de la carlingue du Boeing 787 que les décombres d'une résidence qui abritait des médecins et des étudiants en médecine. Selon un dernier bilan officiel, 265 personnes ont été tuées. Un seul passager a survécu. Hier, le pape a fait part de ses prières pour toutes les victimes dans un bain. À l'est de la RDC, un peu plus de 5 mois depuis la chute de Goma entre les mains des rebelles de l'Alliance Fleuve Congo, AFC et M23. Goma a reçu hier la visite de la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta. Elle inscrit sa visite dans la compassion et l'écoute de la population locale et des agents de la mission onusienne dans la région. À Goma, Augustin Moussang.
Écouter et exprimer sa solidarité avec la population et les personnels de la mission onusienne présente à Goma. C'est donc ça l'objectif de cette mission de 3 jours de la patronne de la MONUSCO. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC est à Goma depuis hier jeudi, 12 juin 2025, ville sous contrôle de la rébellion de l'AFC M23 depuis le 27 janvier de cette année. C'est à bord d'un hélicoptère de l'ONU que Bintou Keïta a atterri dans une des bases de la MONUSCO à Goma, l'aéroport étant toujours hors usage. Votre résilience est remarquable, a dit Bintou Keïta à la population à sa descente de l'hélicoptère. Après une rencontre hier jeudi même avec le personnel civil de la MONUSCO, son agenda prévoit des rencontres avec certaines couches de la population, notamment les femmes, mais aussi avec les autorités de l'AFC M23. Avec ces derniers, elle discutera des missions de la MONUSCO, notamment la protection des civils, renseigne ses équipes. Goma, Augustin Monsinguier, Radio Vatican.
On reste en RDC pour notre dossier. Dimanche, en effet, à Rome, sera béatifié en la basilique de Saint-Paul hors les murs le laïc Floribert Buonacci, membre de la communauté de Sant'Egidio. Tué à l'âge de 26 ans, en 2007, ce jeune était fonctionnaire à l'Office congolais de contrôle, un organisme chargé de vérifier la conformité des produits devant franchir la frontière pour entrer en RDC. Dans le cadre de son travail à Goma, il fut confronté à une cargaison de riz impropre à la consommation venant du Rwanda. Homme honnête et intègre, Floribert bloqua le passage de cette cargaison malgré des sommes d'argent qui lui étaient proposées. Ce refus de la corruption lui a valu le martyr. Enlevé à Goma le 7 juillet 2007, son corps sans vie sera retrouvé deux jours plus tard. En novembre 2024, le pape François l'a reconnu martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Pour Aline Minani, responsable de Sant'Egidio Goma, il laisse l'image d'une personne serviable qui voulait le bonheur de tous.
Pour la communauté de Sant'Egidio, la béatification de Floribert Buonacci, cette nouvelle, nous l'avons accueillie avec beaucoup de reconnaissance et de joie. L'émotion est si grande pendant ces derniers temps parce qu'on donne à l'Église un bienheureux. Pour nous, c'est une fierté pour Goma d'abord, qui est connue pour tant d'histoires un peu tristes. Mais maintenant, on a une nouvelle qui réjouit toutes nos communautés de Sant'Egidio à travers le monde entier et la communauté de Sant'Egidio en RDC. Donc pour nous, c'est un sentiment de gratitude pour cette reconnaissance de l'Église et de notre jeune martyr qui a fait partie de notre communauté de Sant'Egidio de Goma.
Sentiment de reconnaissance parce que Floribert sera le premier bienheureux de la communauté de Sant'Egidio.
Si, il sera le premier, oui.
À Goma, Floribert était notamment engagé auprès des enfants de la rue. Quel témoignage pouvez-vous faire de lui? Quelle image a-t-il laissé en tant que membre de Sant'Egidio?
Je dirais ce que je garde de Floribert comme quelqu'un qui voulait servir, pour qui toute la vie comptait. Même c'est des enfants de la rue, les enfants qui ne sont pas reconnus même par la société. Mais ce sont ces enfants-là que Floribert prenait soin, il les protégeait du danger. Je peux témoigner l'exemple de Jonathan, un enfant de la rue qui était venu de Bukavu. Il jouait dans le bateau et puis du coup le bateau a pris le large et puis s'est retrouvé le matin à Goma, sans famille, sans personne. Il ne connaissait même pas cette ville. Il a rencontré Floribert. Et comme il s'est senti responsable de la vie de ce jeune garçon Jonathan, et à 10 ans, et par après Floribert, il a cherché la famille de Jonathan à Bukavu. Il a pu retrouver la famille et puis il a ramené Jonathan dans sa famille. Jonathan, lui, quand il parlait de Floribert, il dit que j'ai compris que c'était un ange que Dieu m'avait envoyé pour me sauver de la rue. Il voulait voir tout le monde ensemble et il disait toujours, il rêve d'un Congo où tous seront assis sur une même table. C'est quelqu'un qui voulait voir tout le monde heureux autour de lui.
Floribert a connu le martyr à l'âge de 26 ans. Il a résisté à la corruption dans le cadre de son travail à l'Office congolais des contrôles. Qu'est-ce que son modèle peut inspirer aux jeunes?
Aux jeunes congolais, je pense, c'est de faire notre la mémoire de Floribert. Nous voulons écrire une nouvelle histoire aujourd'hui. Floribert l'a fait. Nous devons emboîter les pas, suivre ce que Floribert a fait. Floribert, dans son lieu de travail, il a vécu l'évangile. Il n'a pas voulu séparer et sa vie chrétienne et sa vie professionnelle. Il ne s'est pas plié à la culture de l'argent, à la culture de sauve-toi toi-même. Il s'est dit, la santé de tout le monde compte. Pour tout le monde, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons un modèle au Congo. Tout le monde connaît l'histoire à laquelle on s'est identifié notre pays. Mais en ce moment, on identifie notre pays qui donne à l'Église un bienheureux.
Vous avez évoqué l'histoire de votre pays, la RDC, particulièrement la zone Est, encore touchée par l'instabilité. Floribert est mort dans cette même zone. Qu'est-ce que sa figure peut apporter comme interpellation aux dirigeants de la RDC, des pays des Grands Lacs et d'Afrique?
Je pense que c'est devoir méditer sur les paroles de Floribert, parce qu'il disait que je rêve d'un Congo où on verra tout le monde sur une même table. Aujourd'hui, le pays est fragilisé. Qu'aujourd'hui, tous, même les hommes politiques, même les jeunes, tout le monde se dit qu'il a une responsabilité à accomplir dans ce qui se passe aujourd'hui. Que chacun prenne sa responsabilité. Pour Floribert, il voulait la paix. Il chantait souvent le chant de la résurrection pour l'Afrique, de la communauté de Sant'Egidio. Voyez un désir devenir un jardin. Oui, Goma peut devenir un jardin. Oui, la RDC peut devenir un jardin. Alors, c'est le moment de dire que ces jardins, chacun peut planter un arbre qui peut donner des fruits, qui peut donner de l'ombre. Tout le monde peut s'abriter et trouver la protection. Assez de tout le monde, assez de toute la vie perdue, que nous puissions avoir une Afrique où tout le monde a sa place, où une société inclusive.
Interrogé par Stanislas Kambashi, Aline Minani de Sant'Egidio était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.